Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Pour cette seconde et dernière émission de juin 2010, nous céderons la parole à notre sœur Gisèle Évrard de la Fédération Spirit de la province de Liège, avec qui nous continuerons la lecture du livre de la Genèse. Nous terminerons par divers communiqués de nos partenaires et notamment l'agenda des activités programmées pour les prochains mois. Nous nous devons également de vous rappeler que vous avez la possibilité de laisser vos commentaires sur le contenu de nos émissions, et ceci directement sur le site de Radio Kardec. À toutes et tous, nous vous souhaitons une très bonne écoute. Aujourd'hui, notre sœur Gisèle nous invite à poursuivre la lecture de la Genèse selon le spiritisme, suite du chapitre 15 traitant des miracles de l'Évangile. Main sèche, point 18. La femme courbée, points 19 et 20, paralytique, de la piscine, des points 21 à 23.
La Genèse selon le spiritisme, suite du chapitre 15, les miracles de l'Évangile. Mains sèches, point 18. Jésus entra une autre fois dans la synagogue, où il trouva un homme qui avait une main sèche. Et il l'observait pour voir s'il le guérirait un jour de sabbat, afin d'en prendre sujet de l'accuser. Alors il dit à cet homme qui avait une main sèche, « Levez-vous, tenez-vous là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis au jour du sabbat de faire du bien ou du mal, de sauver la vie ou de l'ôter ?» Et ils demeurèrent dans le silence. Mais lui, les regardant avec colère, affligé qu'il était de l'aveuglement de leur cœur, dit à cet homme, « Étendez votre main. » Il l'étendit, et elle devint saine. Aussitôt, les pharisiens, étant sortis, tinrent conseil contre lui avec les Hérodiens sur le moyen de le perdre. Mais Jésus se retira avec ses disciples vers la mer, où une grande multitude de peuples le suivit de Galilée et de Judée, de Jérusalem, de l'Idumée et d'au-delà le Jourdain. Et ceux des environs de Tyr et de Sidon, ayant entendu parler des choses qu'il faisait, vinrent en grand nombre le trouver. Entre parenthèses, Saint Marc, chapitre 3, versets de 1 à 8. Fermez la parenthèse. La femme courbée, point 19. Jésus enseignait dans une synagogue tous les jours de sabbat. Et un jour, il y vit une femme possédée d'un esprit qui la rendait malade depuis 18 ans. Et elle était si courbée qu'elle ne pouvait du tout regarder en haut. Jésus, la voyant, l'appela et lui dit, « Femme, vous êtes délivrée de votre infirmité. » En même temps, il lui imposa les mains, et étant aussitôt redressée, elle en rendit gloire à Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus l'avait guéri un jour de sabbat, dit au peuple, « Il y a 6 jours destinés pour travailler. Venez ces jours-là pour être guéris, et non au jour du sabbat. » Le Seigneur, prenant la parole, lui dit, « Hypocrite, y a-t-il quelqu'un de vous qui ne délie pas son bœuf ou son âne de la crèche le jour du sabbat, et ne le mène boire ? Pourquoi donc ne fallait-il pas délivrer de ses liens en un jour de sabbat cette fille d'Abraham que Satan avait tenue liée durant 18 ans ?» À ces paroles, tous ses adversaires demeurèrent confus, et tout le peuple était ravi de lui voir faire tant d'actions glorieuses. Entre parenthèses, Saint Luc, chapitre 13, versets de 10 à 17. Fermez la parenthèse. Point 20. Ce fait prouve qu'à cette époque, la plupart des maladies étaient attribuées aux démons, et que l'on confondait, comme aujourd'hui, les possédés avec les malades, mais en sens inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui ne croient pas aux mauvais esprits confondent les obsessions avec les maladies pathologiques. Paralytique de la piscine. Point 21. Après cela, la fête des Juifs étant arrivée, Jésus s'en alla à Jérusalem. Or, il y avait à Jérusalem la piscine des brebis, qui s'appelle en hébreu Bethsaïda, qui avait 5 galeries. Dans lesquels étaient couchés un grand nombre de malades, de boiteux et de ceux qui avaient les membres desséchés, qui tous attendaient que l'eau fût remuée. Car l'ange du Seigneur, en un certain temps, descendait dans cette piscine et en remuait l'eau. Et celui qui entrait le premier, après que l'eau avait été ainsi remuée, était guéri, quelque maladie qu'il eût. Or, il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et connaissant qu'il était malade depuis fort longtemps, lui dit « Voulez-vous être guéri ?» Le malade répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine après que l'eau a été remuée, et pendant le temps que je me mets à y aller, un autre y descend avant moi. » Jésus lui dit « Levez-vous, emportez votre lit et marchez. » À l'instant, cet homme fut guéri, et prenant son lit, il commença à marcher. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est aujourd'hui le sabbat. Il ne vous est pas permis d'emporter votre lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Emportez votre lit et marchez. » Ils lui demandèrent, « Qui donc est cet homme qui vous a dit, « Emportez votre lit et marchez ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas lui-même qui il était, car Jésus s'était retiré de la foule du peuple qui était là. Depuis, Jésus trouva cet homme dans le temple et lui dit, « Vous voyez que vous êtes guéri? Ne péchez plus à l'avenir, de peur qu'il ne vous arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla trouver les Juifs et leur dit que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et c'est pour cette raison que les Juifs persécutaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses-là le jour du sabbat. Alors Jésus leur dit, « Mon Père ne cesse point d'agir jusqu'à présent, et j'agis aussi incessamment. » Entre parenthèses, Saint Jean, chapitre 5, versets de 1 à 17. Fermez la parenthèse. Point 22. Piscine, entre parenthèses, du mot latin piscis, poisson, fermez la parenthèse, se disait, chez les Romains, des réservoirs ou viviers où l'on nourrissait des poissons. Plus tard, l'acception de ce mot fut étendue au bassin où l'on se baignait en commun. La piscine de Bethsaïda, à Jérusalem, était une citerne près du temple, alimentée par une source naturelle dont l'eau paraît avoir eu des propriétés curatives. C'était sans doute une source intermittente qui, à certaines époques, jaillissait avec force et remuait l'eau. Selon la croyance vulgaire, ce moment était le plus favorable aux guérisons. Peut-être qu'en réalité, au moment de sa sortie, l'eau avait une propriété plus active, ou que l'agitation produite par l'eau jaillissante remuait la vase salutaire dans certaines maladies. Ces effets sont très naturels et parfaitement connus aujourd'hui. Mais alors, les sciences étant peu avancées, et l'on voyait une cause surnaturelle dans la plupart des phénomènes incompris. Les Juifs attribuaient donc l'agitation de cette eau à la présence d'un ange, et cette croyance leur semblait d'autant mieux fondée qu'à ce moment, l'eau était plus salutaire. Après avoir guéri cet homme, Jésus lui dit « À l'avenir, ne péchez plus, de peur qu'il ne vous arrive quelque chose de pis. » Par ces paroles, il lui fait entendre que sa maladie était une punition et que, s'il ne s'améliore pas, il pourra être de nouveau puni encore plus rigoureusement. Cette doctrine est entièrement conforme à celle qu'enseigne le spiritisme. Point 23. Jésus semblait prendre à tâche d'opérer ses guérisons le jour du sabbat pour avoir occasion de protester contre le rigorisme des pharisiens touchant l'observation de ce jour. Il voulait leur montrer que la vraie piété ne consiste pas dans l'observance des pratiques extérieures et des choses de forme, mais qu'elle est dans les sentiments du cœur. Il se justifie en disant « Mon Père ne cesse point d'agir jusqu'à présent, et j'agis aussi incessamment. » C'est-à-dire Dieu ne suspend point ses œuvres ni son action sur les choses de la nature le jour du sabbat. Il continue à faire produire ce qui est nécessaire à votre nourriture et votre santé. Et je suis son exemple.
Poursuivons notre lecture du jour par la suite du 15e chapitre de la Genèse traitant des miracles de l'Évangile. L'aveugle né, points 24 et 25, et des nombreuses guérisons de Jésus, points 26.
La Genèse selon le spiritisme, suite du chapitre 15, les miracles de l'Évangile. Aveugle né. Point 24. Lorsque Jésus passait, il vit un homme qui était aveugle dès sa naissance, et ses disciples lui firent cette demande. « Maître, est-ce le péché de cet homme ou le péché de ceux qui l'ont mis au monde qui est cause qu'il est né aveugle ?» Jésus leur répondit, « Ce n'est point qu'il a péché, ni ceux qui l'ont mis au monde, mais c'est afin que les œuvres de la puissance de Dieu éclatent en lui. Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour. La nuit vient, dans laquelle personne ne peut agir. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre, et ayant fait de la boue avec sa salive, il oignit de cette boue les yeux de l'aveugle, et lui dit, « Allez vous laver dans la piscine de Siloé, qui signifie « envoyer ». Il y alla donc, il s'y lava, et en revint, voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu auparavant demander l'aumône disaient, « N'est-ce pas celui qui était assis et qui demandait l'aumône ?» Les uns répondaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, c'est un qui lui ressemble. » Mais il leur disait, « C'est moi-même. » Ils lui dirent donc, « Comment vos yeux se sont-ils ouverts ?» Il leur répondit, « Cet homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue et en a oint mes yeux et m'a dit, « Allez à la piscine de Siloé et vous y lavez. » J'y ai été, je m'y suis lavé et je vois. » Ils lui dirent, « Où est-il ?» Il leur répondit, « Je ne sais. » Alors ils amenèrent aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle. Or, c'était le jour du sabbat que Jésus avait fait cette boue et lui avait ouvert les yeux. Les pharisiens l'interrogèrent donc aussi eux-mêmes pour savoir comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux. Je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme n'est point envoyé de Dieu, puisqu'il ne garde point le sabbat. » Mais d'autres disaient, « Comment un méchant homme pourrait-il faire de tels prodiges ?» Il y avait sur cela de la division entre eux. Ils dirent donc de nouveau à l'aveugle, « Et toi, que dis-tu de cet homme qui t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « Je dis que c'est un prophète. » Mais les Juifs ne crurent point que cet homme eût été aveugle, et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir son père et sa mère, qu'ils interrogèrent en leur disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ?» Le père et la mère répondirent, « Nous savons que c'est là notre fils, et qu'il est né aveugle, mais nous ne savons comment il voit maintenant, et nous ne savons pas non plus qui lui a ouvert les yeux. Interrogez-le. Il a de l'âge qu'il répond pour lui-même. » Son père et sa mère parlaient de la sorte, parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà résolu ensemble que quiconque reconnaîtrait Jésus pour être le Christ serait chassé de la synagogue. Ce fut ce qui obligea le père et la mère de répondre, « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Ils appelèrent donc une seconde fois cet homme qui avait été aveugle, et lui dirent, « Rends gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Il leur répondit, « Si c'est un pécheur, je n'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et je vois maintenant. » Ils lui dirent encore, « Que t'a-t-il fait et comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous l'avez entendu. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore une fois ? Est-ce que vous voulez devenir ses disciples ?» Sur quoi ils le chargèrent d'injures et lui dirent, « Sois toi-même son disciple. Pour nous, nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais pour celui-ci, nous ne savons pas d'où il sort. » Cet homme leur répondit, « C'est ce qui est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est et qu'il m'ait ouvert les yeux. Or, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et qu'il fasse sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Depuis que le monde est, on n'a jamais entendu dire que personne ait ouvert les yeux à un aveugle né. Si cet homme n'était point envoyé de Dieu, il ne pourrait rien faire de tout ce qu'il a fait. » Ils lui répondirent, « Tu n'es que péché dès le ventre de ta mère, et tu veux nous enseigner ?» Et ils le chassèrent. Entre parenthèses, Saint Jean, chapitre 9, versets de 1 à 34. Fermez la parenthèse. Point 25. Ce récit, si simple et si naïf, porte en soi un caractère évident de vérité. Rien de fantastique ni de merveilleux. C'est une scène de la vie réelle prise sur le fait. Le langage de cet aveugle est bien celui de ces hommes simples chez lesquels le savoir est suppléé par le bon sens, et qui rétorquent les arguments de leurs adversaires avec bonhomie, et par des raisons qui ne manquent ni de justesse ni d'à-propos. Le ton des pharisiens n'est-il pas celui de ces orgueilleux qui n'admettent rien au-dessus de leur intelligence, et s'indignent à la seule pensée qu'un homme du peuple puisse leur en remontrer? Sauf la couleur locale des noms, on se croirait de notre temps. Être chassé de la synagogue équivalait à être mis hors de l'Église. C'était une sorte d'excommunication. Les spirites, dont la doctrine est celle du Christ interprétée selon le progrès des Lumières actuelles, sont traités comme les Juifs qui reconnaissaient Jésus pour le Messie. On les excommuniant, on les met hors de l'Église, comme firent les scribes et les pharisiens à l'égard des partisans de Jésus. Ainsi, voici un homme qui est chassé parce qu'il ne peut croire que celui qui l'a guéri soit un possédé du démon et parce qu'il glorifie Dieu de sa guérison. N'est-ce pas ce que l'on fait à l'égard des spirites? Ce qu'ils obtiennent, sage conseil des esprits, retour à Dieu et au bien, guérison, tout est l'œuvre du diable et on leur jette l'anathème. N'a-t-on pas vu des prêtres dire, du haut de la chair, qu'il valait mieux rester incrédule que de revenir à la foi par le spiritisme? N'en a-t-on pas vu dire à des malades qu'ils ne devaient se faire guérir par les spirites qui possèdent ce don parce que c'est un don satanique? D'autres prêchaient que les malheureux ne devaient pas accepter le pain distribué par les spirites parce que c'était le pain du diable. Que disaient et que faisaient de plus les prêtres juifs et les pharisiens? Du reste, il est dit que tout doit se passer aujourd'hui comme au temps du Christ. Cette demande des disciples, est-ce le péché de cet homme qui cause qu'il est né aveugle? Indique l'intuition d'une existence antérieure, autrement elle n'aurait pas de sens, car le péché qui serait la cause d'une infirmité de naissance devrait avoir été commis après la naissance et par conséquent dans une existence antérieure. Si Jésus avait vu là une idée fausse, il leur aurait dit, comment cet homme aurait-il pu pécher avant d'être né? Au lieu de cela, il leur dit que cet homme est aveugle. Ce n'est pas qu'il ait péché, mais afin que la puissance de Dieu éclate en lui, c'est-à-dire qu'il devait être l'instrument d'une manifestation de la puissance de Dieu. Si ce n'était pas une expiation du passé, c'était une épreuve qui devait servir à son avancement, car Dieu, qui est juste, ne pouvait lui imposer une souffrance sans compensation. Quant aux moyens employés pour le guérir, il est évident que l'espèce de boue faite avec de la salive et de la terre ne pouvait avoir de vertu que par l'action du fluide guérisseur dont elle était imprégnée. C'est ainsi que les substances les plus insignifiantes, l'eau par exemple, peuvent acquérir des qualités puissantes et effectives sous l'action du fluide spirituel ou magnétique auxquelles elles servent de véhicule ou, si l'on veut, de réservoir. Nombreuses guérisons de Jésus. Point 26. Jésus allait par toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant l'évangile du royaume et guérissant toutes les langueurs et toutes les maladies parmi le peuple. Et sa réputation s'était répandue par toute la Syrie. Il lui présentait tous ceux qui étaient malades et diversément affligés de maux et de douleurs, les possédés, les lunatiques, les paralytiques, et il les guérissait. Et une grande multitude de peuples le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 4, versets 23, 24, 25. Fermez la parenthèse.
Pour terminer sa lecture du jour, notre sœur Gisèle vous invite à suivre la suite du chapitre 15, traitant des miracles de l'Évangile. Suite des nombreuses guérisons de Jésus, points 27 et 28, les possédés, points 29 à 34.
La Genèse selon le spiritisme, suite du chapitre 15, les miracles de l'Évangile. Nombreuses guérisons de Jésus. Point 27. De tous les faits qui témoignent de la puissance de Jésus, les plus nombreux sont, sans contredit, les guérisons. Il voulait prouver par là que la vraie puissance est celle qui fait le bien, que son but était de se rendre utile et non de satisfaire la curiosité des indifférents par des choses extraordinaires. En soulageant la souffrance, ils s'attachaient les gens par le cœur et se faisaient des prosélytes plus nombreux et plus sincères que s'ils n'eussent été frappés que par le spectacle des yeux. Par ce moyen, ils se faisaient aimer, tandis que, s'il se fût borné à produire des effets matériels surprenants, comme en demandaient les pharisiens, la plupart n'auraient vu en lui qu'un sorcier et un habile jongleur que les désœuvrés eussent été voir pour se distraire. Ainsi, quand Jean-Baptiste envoie à lui ses disciples pour lui demander s'il est le Christ, il ne dit pas « je le suis », car tout imposteur aurait pu en dire autant. Il ne leur parle ni de prodiges, ni de choses merveilleuses, mais il leur répond simplement « allez dire à Jean, les aveugles voient, les malades sont guéris, les sourds entendent, l'évangile est annoncé aux pauvres. » C'était lui dire « reconnaissez-moi à mes œuvres, jugez l'arbre à son fruit, car là est le véritable caractère de sa mission divine. » Point 28. C'est aussi par le biais qu'il fait que le spiritisme prouve sa mission providentielle. Il guérit les maux physiques, mais il guérit surtout les maladies morales, et ce sont là les plus grands prodiges par lesquels il s'affirme. Ses plus sincères adeptes ne sont pas ceux qui n'ont été frappés que par la vue des phénomènes extraordinaires, mais ceux qui ont été touchés au cœur par la consolation, ceux qui ont été délivrés des tortures du doute, ceux dont le courage a été relevé dans les afflictions, qui ont puisé la force dans la certitude de l'avenir qu'il est venu leur apporter, dans la connaissance de leur être spirituel et de sa destinée. Voilà ceux dont la foi est inébranlable, parce qu'ils sentent et comprennent. Ceux qui ne voient dans le spiritisme que des effets matériels ne peuvent comprendre sa puissance morale. Aussi, les incrédules qui ne le connaissent que par des phénomènes dont ils n'admettent pas la cause première, ne voient dans les spirites que des jongleurs et des charlatans. Ce n'est donc pas par des prodiges que le spiritisme triomphera de l'incrédulité. C'est en multipliant ses bienfaits moraux, car si les incrédules n'admettent pas les prodiges, ils connaissent comme tout le monde la souffrance et les afflictions, et personne ne refuse les soulagements et les consolations. Posséder, point 29. Ils vinrent ensuite à Capharnaüm, et Jésus, entrant d'abord, au jour du sabbat, dans la synagogue, il les instruisait. Et ils étaient étonnés de sa doctrine, parce qu'il les instruisait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Or, il se trouva dans la synagogue un homme, possédé d'un esprit impur, qui s'écria en disant « Qu'y a-t-il entre vous et nous, Jésus de Nazareth? Êtes-vous venu pour nous perdre? Je sais qui vous êtes le Saint de Dieu. » Mais Jésus, lui parlant avec menace, lui dit « Tais-toi et sors de cet homme !» Alors l'esprit impur, s'agitant avec de violentes convulsions et jetant un grand cri, sortit de lui. Tous en furent si surpris qu'ils se demandaient les uns aux autres. « Qu'est-ce que ceci? Et quelle est cette nouvelle doctrine? Ils commandent avec empire, même aux esprits impurs, et lui obéissent. » Entre parenthèses, Saint Marc, chapitre 1, versets de 21 à 27. Fermez la parenthèse. Point 30. Après qu'ils furent sortis, on lui présenta un homme muet, possédé du démon. Le démon ayant été chassé, le muet parla, et le peuple en fut dans l'admiration, et il disait « On n'a jamais rien vu de semblable en Israël !» Mais les pharisiens disaient au contraire « C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons !» Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 9, versets 32, 33, 34. Fermez la parenthèse. Point 31. Lorsqu'il fut venu au lieu où étaient les autres disciples, il vit une grande multitude de personnes autour d'eux, et des scribes qui disputaient avec eux. Aussitôt, tout le peuple, ayant aperçu Jésus, fut saisi d'étonnement et de frayeur. Étant accourus, ils le saluèrent. Alors il leur demanda « De quoi disputez-vous ensemble ? Et un homme d'entre le peuple, prenant la parole, lui dit « Maître, je vous ai amené mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Et en quelque lieu qu'il se saisisse de lui, il le jette contre terre. Et l'enfant écume, graisse des dents et devient tout sec. J'ai prié vos disciples de le chasser, mais ils ne l'ont pu. » Jésus leur répondit « Aux gens incrédules, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous souffrirai-je? Amenez-le-moi. » Ils le lui amenèrent, et il n'eut pas plus tôt vu Jésus que l'esprit commença à l'agiter avec violence, et il tomba par terre où il se roulait en écumant. Jésus demanda au père de l'enfant « Combien y a-t-il que cela lui arrive ?» Dès son enfance, dit le père, et l'esprit l'a souvent jeté, tantôt dans le feu et tantôt dans l'eau, pour le faire périr. Mais si vous pouvez quelque chose, ayez compassion de nous et nous secourez. » Jésus lui répondit, « Si vous pouvez croire, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant, s'écriant, lui dit avec larmes, « Seigneur, aidez-moi dans mon incrédulité. » Et Jésus, voyant que le peuple accourait en foule, parla avec menace à l'esprit impur et lui dit « Esprit sourd et muet, sors de l'enfant, je te le commande, et n'y rentre plus. » Alors cet esprit, ayant jeté un grand cri et l'ayant agité par de violentes convulsions, sortit, et l'enfant demeura comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus l'ayant pris par la main et le soulevant, il se leva. Lorsque Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui dirent en particulier « D'où vient que nous n'avons pu chasser ce démon ?» Il leur répondit « Ces sortes de démons ne peuvent être chassés par aucun autre moyen que la prière et par le jeûne. » Entre parenthèses, c'est Marc, chapitre 9, versets de 13 à 28. Point 32. Alors on lui présenta un possédé aveugle et muet, et il le guérit, en sorte qu'il commença à parler et à voir. Tout le peuple en fut rempli d'admiration, et il disait, « N'est-ce point là le fils de David ?» Mais les pharisiens, entendant cela, disaient, « Cet homme ne chasse les démons que par la vertu de Belzébuth, prince des démons. » Or Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même sera ruiné, et toute ville ou maison qui est divisée contre elle-même ne pourra subsister. » Si Satan chasse Satan, il est divisé contre soi-même. Comment donc ce royaume subsistera-t-il? Et si c'est par Belzébuth que je chasse les démons, par qui vos enfants les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le royaume des dieux est donc parvenu jusqu'à vous. » Entre parenthèses, Saint Matthieu, chapitre 12, versets 22 à 28. Fermez la parenthèse. Point 33. Les délivrances de possédés figurent, avec les guérisons, parmi les actes les plus nombreux de Jésus. Parmi les faits de cette nature, il en est, comme celui qui est rapporté ci-dessus, au numéro 30, où la possession n'est pas évidente. Il est probable qu'à cette époque, comme il arrive au cours de nos jours, on attribuait à l'influence des démons toutes les maladies dont la cause était inconnue, principalement le mutisme, l'épilepsie et la catalepsie. Mais il en est où l'action des mauvais esprits n'est pas douteuse. Ils ont, avec ceux dont nous sommes témoins, une analogie si frappante qu'on y reconnaît tous les symptômes de ce genre d'affection. La preuve de la participation d'une intelligence occulte, en pareil cas, ressort d'un fait matériel. Ce sont les nombreuses guérisons radicales obtenues, dans quelque sorte spirites, par la seule évocation et la moralisation des esprits obsesseurs, sans magnétisation ni médicaments, et souvent en l'absence et à distance du patient. L'immense supériorité du Christ lui donnait une telle autorité sur les esprits imparfaits, alors appelés démons, qu'il lui suffisait de leur recommander de se retirer pour qu'ils ne puissent résister à cette injonction. Entre parenthèses, chapitre 14, numéro 46. Fermez la parenthèse.
Quelques mots sur une nouveauté du mouvement spirit francophone, La librairie Spirit francophone se propose de rassembler un maximum d'ouvrages écrits en français sur le spiritisme ou sur toute autre forme de spiritualisme se rapprochant de la philosophie spirit. Le but premier demeure la diffusion du spiritisme. La librairie imprime donc les livres de base d'Allan Kardec et des pionniers du spiritisme, mais en plus, en collaboration avec l'encyclopédie Spirit, la librairie Spirit francophone propose de rééditer des livres rares ou disparus. C'est pourquoi sur le site de l'encyclopédie, un sondage est proposé afin que les habitués du site puissent voter pour les livres qu'ils aimeraient voir réédités. Un nouveau sondage devrait être proposé tous les 3 mois. À la librairie Spirit francophone, et elle vous invite à aller sur son site, mais aussi celui de l'encyclopédie Spirit à l'adresse http://www.spiritisme.net pour voter bien sûr, mais découvrir les trésors oubliés que renferme la littérature Spirit francophone. Pour plus d'informations, merci de bien vouloir vous rendre sur le site de la librairie Spirit francophone à l'adresse suivante www.libsf.com. Avant la pause estivale pendant laquelle les activités des centres Spirit sont habituellement réduites, nous avions 2 rendez-vous d'importance. Le 11e symposium de la francophonie à Wégimont, Belgique, du 28 au 30 mai dernier, immédiatement suivi du 3e congrès de médecine et spiritualité qui, placé sous l'égide du mouvement Spirit francophone, s'est déroulé le 5 et 6 juin au Palais des congrès à Liège. Une transmission du congrès en direct sur Internet était prévue. Malheureusement, pour des raisons techniques, il n'a pas été possible de transmettre le 3e congrès de médecine et spiritualité via notre site. Nous nous excusons pour cet inconvénient. Ce fut malgré tout des moments fort agréables et appréciés de tous. Encore merci pour votre participation. Nous vous en parlerons plus longuement lors de notre prochaine émission. En attendant de nous retrouver pour de nouveaux défis, que chacun profite de la pause estivale qui s'annonce pour se ressourcer et prendre de nouvelles résolutions au profit de chacun et de tous. Nous voici arrivés à la partie consacrée aux communiqués de nos divers partenaires ainsi qu'à l'agenda des activités en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg et en France. Les mois de juillet et août sont en général synonymes de vacances et de fermeture des centres spirites francophones. Radio Kardec, d'ailleurs, ne peut échapper à cette tradition estivale, repos bien mérité que nous mettrons à profit pour préparer la rentrée de septembre. Toutefois, nos amis de l'association du chemin vous invitent d'ores et déjà à prendre note qu'ils organiseront toute une série de conférences dont la première est prévue pour le samedi 11 septembre 2010 à 14h30. Le thème sera « La force de l'amour face à la mort ». Le conférencier sera Michel Pirat. La seconde, prévue pour le dimanche 10 octobre 2010 à 14h30, aura comme thème central les preuves scientifiques d'une vie après la vie, avec la présence du docteur Jean-Jacques Charbonnier. La troisième conférence s'effectuera le samedi 27 novembre à 14h30 sur le thème Chico Xavier, l'homme et le médium. Celle-ci vous sera présentée par notre frère Michael Ponsardin, conférencier biographe. La quatrième et dernière conférence est prévue autour du thème « La force de la prière ». Elle aura lieu le samedi 18 décembre 2010 à 14h30. Pour renseignements et inscriptions, merci de bien vouloir prendre contact via courriel à l'adresse suivante asso.du.chemin@free.fr ou par voie téléphonique en formant depuis la France le 09 50 69 26 10. Vous pourrez également obtenir d'autres informations via le site internet de l'association à l'adresse suivante www.le-chemin.org. Avis aux personnes et associations. Vous êtes responsable d'un groupe, d'une association ou simple particulier. Vous connaissez des personnes qui aimeraient en savoir plus sur la philosophie spirit. Vous avez un local, une pièce, où vous pouvez nous en renseigner un. Si vous le souhaitez, nous pouvons venir faire une conférence de divulgation dans votre région afin de vous informer sur ce qu'est réellement la philosophie spirit et toutes les valeurs morales qu'elle renferme. Mieux encore, il n'y a pas de groupe spirit dans votre région. Vous avez envie d'en former un. Nous pouvons vous y aider en vous apportant un support didactique et humain pour la formation de celui-ci, même familial. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter par courrier ou courriel à l'adresse suivante, Union Spirit Belge 43 rue Maguin à 4000 Liège, ou par courriel usb@spirit.be. Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Allan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par email, de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio@spirit.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 00 32 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.